Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Le meilleur du transport, puis le meilleur des invités, puis le meilleur des êtres humains aussi. On se promène dans les extrêmes aujourd'hui parce que j'ai une conviction profonde, c'est que ça prend beaucoup de bonté des fois pour effacer l'extrême méchanceté. Puis il y a beaucoup de tristesse dans le sujet qu'on va aborder, mais maudit que c'est un bon sentiment puis que c'est rassurant de savoir qu'il existe meurtre et disparition irrésolue du Québec. On va rejoindre le président fondateur et enquêteur, Stéphanus. Bonjour Stéphane!
Hey, bonjour Marie, ça va bien?
Ah, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui. Merci, merci pour tout ce que tu fais, toi et ta gang. Là.
Ben, ça me fait plaisir, puis merci de passer à nous pour nous inviter de temps en temps. C'est toujours plaisant de pouvoir s'adresser à votre auditoire.
Oui, bien en plus, c'est comme, tu sais, t'es en onde, mais ce que t'offres aussi vis-à-vis les réseaux sociaux, là, entre autres, là, ce que vous avez fait à Chandler la semaine dernière, tu sais, tous les reportages, les photos, voir les chiens sur le terrain, les drones, là, c'est comme, ça m'a fait comprendre, pareil, l'immensité puis la difficulté de retracer des faits qui ont eu lieu des années auparavant, là.
Ben, c'est un petit peu ce que j'essayais de démontrer là, avec les images du drone, avec c'est tellement gigantesque le territoire à couvrir dans les bois là, quand on cherche quelqu'un qui est présumément peut-être décédé dans les bois ou enterré dans les bois si c'est criminel. Donc, faut montrer aux gens que c'est la tâche est pas facile. Tu sais, je veux dire, faut pas se décourager là, parce qu'à un moment donné, je pense que tout vient à point à qui c'est attendre. Là. C'est sûr qu'au niveau d'une disparition dans le bois, quand on n'est pas certain que la personne s'y trouve, ben là, c'est on lance nos lignes à l'eau finalement pour on essaie. Mais là, ce qu'on est allé faire en fin de semaine, on est allé valider certaines informations qu'on avait reçues de certains endroits qu'on avait commencé à chercher l'an passé, puis qu'on n'avait pas pu terminer parce que c'est quand même 10 heures de route de chez moi. Et puis même chose pour mon équipe. Là. On était tous à 10 heures de route de Chandler. Donc, quand on fait 10 heures de route, ben, c'est sûr qu'on y va pas juste pour une journée. On fait une journée ou deux. On a fait deux jours et demi. Ben, deux jours et quart, là, plutôt. Et puis, on est revenu, ben, OK, sans retrouver Nadia, mais on est revenu avec des réponses là, à nos questions puis des témoignages supplémentaires qui vont aller dans le sens de l'enquête puis qu'on va pouvoir remettre à la SQ là, éventuellement. On a un rendez-vous justement avec eux au début du mois d'août là, à Chandler, donc avec la SQ.
Bon, ben,
ça va être très bien, ouais, ouais.
C'est quand même le fun de savoir qu'il y a une collaboration. Nadia est disparue depuis quand, elle?
Ben, en fait, elle est disparue le 22 septembre 2021. Enfin, le 21 septembre 2021, puis c'est ça. Ça va faire 4 ans là, en septembre qu'elle a disparu. Donc, l'utilisation des chiens, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça fait longtemps. » Oui, vous avez raison. Les chiens, c'était superflu. La job qu'on avait à faire était terrain, sauf que les personnes qui cherchent, c'est des maîtres chiens. Fait qu'ils ont apporté leurs chiens. Puis on s'est dit en même temps, on va faire une petite expérience. Si jamais, bon, on est dans le bon coin puis que les chiens viennent qu'à détecter une odeur cadavérique, après 3 ans et demi, ben ça va vouloir dire qu'on peut faire ce type de recherche-là peut-être 3 ans et demi. Mais là, pour nous le confirmer, il faudrait qu'on trouve. Donc, on a utilisé plus nos yeux et nos sens à nous, là, les chiens, mais c'était du bonus là, au cas où. Là, parce qu'on a quand même parcouru 8 km dans le bois à chercher des odeurs, à traquer des odeurs, tandis que nous, on en a comme parcouru là, environ 3 là, en tout et partout. Donc, c'est sûr que le maître chien marche beaucoup moins que le chien lui-même, là, mais le chien, il a fait une talente de bon job, il cherche, il veut, puis c'est le fun, c'est beau à voir aller. Puis le fait qu'on se déplace comme ça, ben on prend ça aussi comme un exercice. Hein. Le chien, lui, même s'il trouve pas de cadavre, ben on a toujours dans notre poche arrière une petite odeur de cadavre dans une salière là, qu'on lance dans le bois à toutes les demi-heures là, ou 3/4 d'heure, afin de récompenser le chien. Parce que si le chien, il travaille toute sa journée puis il trouve rien, il va se tanner, il ne voudra plus continuer. Tandis que là, ben, de temps en temps, on lance la salière d'odeur de cadavre, le chien le trouve, on le récompense, il est tout content. Ben, ouais, on continue de chercher, puis il peut faire ça le temps aussi longtemps que la température le permet. Tu sais, c'est des journées trop chaudes, le chien, il faut quand même qu'il se repose, il ne faut pas abuser de nos bons animaux. Mais on en avait 2, donc à chacun leur tour, là, ils faisaient des secteurs, et puis finalement, ben, ça s'est avéré négatif en ce qui concerne trouver Nadia, mais comme je disais tantôt, là, au moins on a des réponses à nos questions et on peut continuer à avancer au niveau de l'enquête.
Ces questionnements-là qui ont apparu comme ça, là, parce que là, j'imagine que vous êtes agrippé à quelque chose de nouveau, ça, c'est comme ça arrive comme ça au gré des vents ou sais, c'est-tu régulier, ça, qu'il arrive des nouvelles informations comme ça?
Ah oui, oui, c'est régulier. Dans le fond, regarde, on parle aujourd'hui, là, puis là, il y a des gens qui nous écoutent. Là. Il y en a, parmi votre audience, il y a des gens qui vont dire, ah oui, ça existe, meurtre et disparition résolue. Moi, je connais une histoire, pourtant, je n'ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Je vais communiquer avec eux autres, je vais leur en parler. Ou il y a des gens qui vont dire, hey, mon père, il n'est même pas sur leur site web. Comment ça qu'il n'est pas sur leur site web? Je vais communiquer avec eux autres. Ou ma soeur, ou mon cousin, ou mon... Tu sais, fait que les gens communiquent avec nous à chaque fois qu'ils nous entendent dans les médias. Parce que on est connus, oui. On n'est pas connu de tous. Hein. On n'est pas la police. On est Meurtre et Disparition résolue du Québec. On est un organisme de bienfaisance. En passant, à ceux qui veulent faire un don, on peut émettre des reçus de dons. Je vous dis tout de suite, là, pour faire d'impôts, là, on a besoin de dons. Se déplacer, là, à Chandler, là, comme ça, juste deux véhicules, là, c'est une fin de semaine d'environ 2 000 $, là. Ben, c'est manger, puis l'essence, puis le toit, tout ça, c'est pas long qu'on, mais à un moment donné, c'est ce qui nous empêche d'en faire plus. On fait beaucoup de choses avec peu d'argent. Imaginez-vous avec beaucoup d'argent ce qu'on pourrait accomplir. Il y a tellement de monde qui sont prêts à nous aider, mais qu'on n'est même pas capable de les déployer parce que je suis pas capable de les déplacer. Fait que, tu sais, c'est là où on est rendu là, là. On est un petit peu victime de notre
succès.
De notre succès. Mais, tu sais, on se plaint pas, mais à quelque part, là, c'est difficile de dire à une famille, ben, je peux pas y aller maintenant. On peut pas faire ça là, puis quand ça serait le temps de le faire, tu sais.
Mais en même temps, vous faites des sacrifices. Je veux dire, personne n'est payé, là, dans votre équipe, là.
Non, personne n'est payé. On est payé par gratitude. Les gens, quand ils disent « Wow, hey, on est content que tu sois ici, merci d'exister », des choses comme ça, tu sais, que l'organisme soit bien vu comme ça, là, ben ça, c'est notre paye, là, parce que c'est à peu près ça qu'on veut faire. On veut que l'organisme garde une bonne réputation et qu'elle fasse des efforts pour aider les familles. Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est pas pour le public, là, c'est pour les familles qui vivent la disparition ou qui vivent le meurtre irrésolu, puis qui... Ils sont sans réponse pendant des mois, voire des années. À un moment donné, nous autres, on arrive, on dit, « Yo, on peut-tu regarder ça, nous autres? Ça nous intéresse, là, ce dossier-là. Il y a des petites affaires qui nous chicotent ou on ne connaît pas le dossier puis on aimerait ça le connaître, voir s'il n'y a pas moyen d'apporter des actions pour le faire débloquer ou au moins afficher la victime sur notre site web, la faire tourner, faire des affiches. On a d'ailleurs des affiches. J'ai des affiches là, à mettre sur des camions. Trucker, compagnie de transport, s'il vous plaît, j'ai besoin de remorques. Surtout des remorques qui partent, mettons qu'ils font la 20, là, qui traversent le Québec.
La province, oui.
La province, qui vont du nord au sud. J'ai même une personne qui est disparue il y a presque 30 ans cette année, qui a une récompense de 10 000 $. Puis j'aimerais ça que cette affiche-là puisse circuler surtout sur la 20, parce qu'on a besoin d'obtenir de l'information. Fait que je vous lance tout de suite, avant de l'oublier, là, s'il y a des compagnies de transport qui sont willing de faire apposer une affiche de 30 pouces par 36 pouces à l'arrière de la remorque à gauche. C'est de l'adhésif 3M, ça endommage pas la remorque. Si vous l'enlevez l'affiche dans 5 ans, vous l'enlevez, puis ça fera pas de dommage. Puis ils sont bonnes, les affiches sont belles. Il y en a qui roulent depuis 2018 là sur les routes. J'en croise de temps en temps. Et puis je pense que ça fait juste aider.
C'est efficace. Puis je veux-tu que je te dise, pour juste rajouter une couche puis encourager une compagnie à embarquer que vous autres, là, je trouve que ça fait bonne presse à la compagnie aussi qui accepte ça. Okay? C'est comme faire vœu utile de sa profession.
Ben, définitivement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau-là, puis ça n'en prendrait d'autres. Tu sais, je veux dire, ce que j'aime de l'affichage sur camion, c'est que les gens qui ne sont pas intéressés au true crime ou au meurtre irrésolu ou aux disparitions ou qui ne sont pas intéressés à l'ordinateur ou à la radio ou à la télévision, ben, ils tombent sur l'affiche et sont obligés de le lire, à moins d'être illettrés. Fait que, ça, on va chercher une audience qui est peut-être pas sur les réseaux sociaux puis qui a peut-être l'information. Puis l'affiche, ben, elle se promène partout au Québec, puis la réponse de la disparition de Louiseville, elle se trouve peut-être à Montmagny. Comprenez? Fait que il faut que les affiches circulent. Fait que c'est en tout cas, je compte sur les camionneurs, les compagnies de transport là, pour pouvoir nous aider à ce niveau-là pour véhiculer nos affiches. J'en ai à peu près une dizaine de disponibles actuellement, là, puis je vais en avoir d'autres là, dans le temps parce qu'on veut avoir nos 150 familles inscrites, là, qu'on puisse diffuser leurs 150 victimes là, sur les remorques. Là, pour le moment, on en a environ une soixantaine sur les routes du Québec.
Juste qu'on continue d'un chiffre, là, tu me dis que tu as à peu près 150 familles, dans le fond, qui comptent sur vous autres peut-être pour réussir à avancer ou apprendre un petit quelque chose de plus. Mais disons qu'on regarderait ça, là, la grandeur du Québec. Là, c'est combien de gens encore qui manqueraient à l'appel et qui pourraient toujours être vivants?
Ah, qui pourraient toujours être vivants, ça, c'est la bonne question. Ça, je dirais pas beaucoup. Là. Écoute, dans notre base de données, on a 1077 meurtres et disparitions, puis c'est environ 50-50. OK? Ça, c'est notre base de données. Ce qu'il y a dans notre base de données, c'est ce qu'on a retrouvé sur Internet. Donc, je vais vous donner un exemple. Tout ce que sur la SQ, sur le site de la SQ, c'est dans notre base de données, mais est-ce que sur le site de la SQ, ils n'ont pas tout? Dans la SQ, il y a environ 1500 meurtres et disparitions irrésolues à l'heure active, mais ils ne sont pas tous sur leur site Web. Même chose pour Montréal. Montréal, SPVM, il y a environ 1500 meurtres et disparitions irrésolues. Donc là, on est rendu à 3000, juste deux corps de police. Là, on n'a pas la police de Gatineau, on n'a pas la police de Longueuil, on n'a pas... On a bien des endroits où est-ce qu'on n'a pas de données. Ça, si on prend Laval, il n'y a pas de site, il n'y a rien sur les disparus de Laval. Je veux dire, c'est très, très... comment pourrait-on dire? C'est très bien gardé comme information. On n'est pas au courant de tous ceux qui sont disparus. Mais si j'y vais avec... Bon, la logique actuelle que j'ai, là, juste avec les deux postes, là, on parle de 3000 meurtres et disparitions. On divise ça en deux, c'est 1500 disparitions. Combien est-ce qu'il y a sur 1500 disparitions, combien est-ce qu'il y en a qu'on retrouve, là, qui sont vraiment irrésolus, puis qu'on retrouve, là, ben c'est presque zéro. Là. On a eu Eduardo Malpica, il a été disparu pendant 5 mois. Et on a eu Kevin Daboulal, qui est disparu pendant 6 mois, et ils ont retrouvé décédé. Ben, c'est les seuls qu'on retrouve, mais on les retrouve décédés. Des personnes qu'on retrouve au bout d'un an ou deux ans ou plus qui étaient disparues, honnêtement, je n'ai même pas de cas à vous amener. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on considère toutes ces disparitions-là comme mystérieuses, pas nécessairement criminelles, pas nécessairement accidentelles ou volontaires. Là. Ils sont disparus. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a qu'on a des idées, là, que, OK, ils se tenaient dans un milieu avec des gens pas trop fréquentables, bien là, ça se pourrait que ce soit une histoire de règlement de compte. Il y en a d'autres que, bien, c'est carrément le mystère, comme Nadia Lantin, c'est un mystère. Son retour, son véhicule à 11 km dans le bois, puis elle aurait décidé d'abandonner le véhicule dans le bois, puis de marcher pour se revenir à la maison parce qu'il est tombé en panne, puis elle ne serait pas restée dans les sentiers. J'ai un petit peu de difficulté à croire ça, fait que je me dis, bien, la possibilité est là, mais elle est petite. Dans ma tête à moi, elle est petite, mais que je regarde plus du côté criminel. T'sais, si c'était volontaire, ben ou criminel ou volontaire. Si c'était accidentel, on l'aurait retrouvé dans un sentier que une cheville brisée puis décédée d'hypothermie ou quelque chose comme ça. Ben, sinon, c'est tous des disparitions qu'il faut se questionner puis ouvrir grand notre éventail de possibilités puis pas être, tu sais, avoir focusé sur avoir la vision tunnel là, comme beaucoup disent. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc on ne faut pas s'en venir à... Ce n'est pas parce qu'on a un petit indice sur quelque chose que c'est nécessairement ça qui s'est passé. Donc, il faut vraiment rester ouvert à ce niveau-là.
Mais je trouve que tu as une tête quand même. Je veux dire, tu t'en tiens au fait. Puis, dans le fond, étant donné que tu l'as vécu toi-même, on ne peut pas en vouloir pareil, même si la majorité... La finalité est triste, là, OK? Ça reste que l'espoir, comme toi, tu l'as entretenu, j'imagine, longtemps, l'espoir. On ne peut pas en vouloir à une famille de toujours espérer ou au moins de réussir à faire un deuil en sachant avoir une place où se recueillir. Ou, tu sais, ça, faut le laisser aller pareil, cette portion-là, où ce que on aimerait ça que la possibilité soit tout le temps là.
Exactement. Mais il faut que la famille ait la vie d'espoir, c'est sûr et certain, puis c'est bon de l'espoir. Ce qui est moins bon, c'est des attentes. Quand la famille s'attend à ce qu'on trouve, ben pas nous nécessairement, mais la police, tu sais, des attentes, là, t'es déçu plus que de l'espoir. L'espoir, tu continues d'espérer jusqu'à temps que ça se produise. Quand t'as des attentes, ben t'es attend là, la semaine prochaine, puis dépêchez-vous, je veux savoir ce qui se passe. Ça, c'est pas nécessaire. C'est pas vraiment évident, là. T'sais, c'est comme, t'sais, quelqu'un qui disparaît, c'est comme, vous cherchez à bonne place, tu sais. un peu comme Jesse Duchesneau quand il est disparu, bien, tout le monde est tu vérifies au Nouveau-Brunswick, ça vérifie à Montréal, il est même devenu un voleur, les voyants s'en sont mêlés en plus de ça, fait que ça a fait comme une grosse affaire, puis moi, tout ce que je disais pendant ce temps-là, j'ai regardé le fleuve, puis finalement, on l'a retrouvé dans le fleuve. T'sais, je veux dire, logiquement, moi, quand il y a un cours d'eau, là, pas loin d'un endroit où quelqu'un disparaît après avoir été dans un bar, là, je regarde beaucoup, beaucoup de cours d'eau, tu sais, à ce niveau-là. C'est... Fait que c'est un petit peu la même chose avec Eduardo Malpica. Il est sorti du bord de Trois-Rivières, puis oups, soudainement, il est parti en t-shirt à moins 4, puis il s'est ramassé dans l'eau. Là. On se questionne sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que, bon, ça doit être accidentel, mais juste la marche du bar jusqu'au fleuve, là, ça devait pincer ses moyens temps à zéro, même à zéro. Là. Tu sais, tu vas sur le bord du fleuve à zéro, puis il vente le soir, il va pas faire croire que t'es bien. Là, puis, tu sais, j'ai un petit peu, tu sais, il y a des choses qu'à un moment donné, je peux comprendre là, que l'enquête, ça va dans ce sens-là, mais il y a des éléments qu'il faut tenir compte, de dire, ben là, on a tout être humain là, qui se respecte, ça n'ira pas par une marche de 10 minutes à zéro là, pour s'en aller vers le fleuve, en tout cas. Fait que, mais, enfin bref, c'est ça, quand les gens, pour revenir à ta question, qui qu'on trouve, ben c'est souvent ceux qui se sont... ben, qui sont décédés finalement, puis qu'ils ont flotté. Mais quand ils sont dans le bois, ça, c'est un autre paire de manches. Mmh. C'est vraiment difficile. Là.
Mais tu as raison, quand le cours d'eau est à proximité, puis pour avoir lu les livres de Victoria Charlton, elle a une théorie là-dessus, parce que même partout dans le monde, il y a toujours des endroits de prédilection où ce qu'on dirait que les rivières ou bien les fleuves attirent le monde. Là, fait que l'eau peut très certainement être meurtrière sans qu'on ait les chiffres de la proportion qui sont décédés de cette façon-là.
Exactement. Comme là, les deux qu'on a retrouvés dans l'eau, on sait pas de quoi ils sont décédés. T'sais, on nous a dit ben, qu'il n'y avait pas de marque de violence. J'ai de la misère à... Ça aussi, je serais curieux de voir de quoi a l'air un corps qui flotte dans l'eau pendant 6 mois. Puis je serais curieux de savoir comment est-ce que moi je peux déterminer qu'il y a eu ou pas eu de la violence sur ce corps-là. Là. Fait que, ben enfin bref, là, c'est le côté que, ben, que Stéphane n'est pas un professionnel. Là. Fait que on laisse les autorités gérer ça, puis on va s'y sur ce qu'ils disent, mais c'est dur à avaler un peu là, pour la famille. Là, je parle toujours en fonction de la famille. Ce que la famille pense de ce qu'il faut dire. Puis je veux dire, ils restent sur leur fin, c'est un moyen temps. C'est comme ben là, OK, comment ça? Il est tombé à l'eau et. C'est le père de mon enfant, l'enfant de 5 ans. Il était heureux. Je crois qu'il venait de mettre un projet à terme. Puis là, finalement, il se retrouve à l'eau. Puis pas de violence. Il ne peut pas s'être suicidé, même accidentel. On aimerait savoir plus de réponses. C'est difficile d'aller chercher des réponses. Mais il faudrait que quand même que les enquêteurs donnent le tu sais, qu'ils comprennent un peu la famille, puis que ça soit avec, puis regardez, il y a des choses qu'on sait, puis qu'on sait pas. Tu sais, on sait pas. Quand on sait pas quelque chose, on le dit. Moi, j'ai pas de misère avec dire, ben, je sais pas, je connais pas ça. Mais on dirait qu'au niveau des familles, quand ils disent, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là, ben, ils sont pas capables de, tu sais, ils vont y aller avec une thèse, là. Alors, ça, là, je parle en général, ils vont y aller avec une thèse que la famille est obligée de dealer avec ça, puis ils sont pas d'accord, puis.
En tout cas, une thèse qui va changer avec le temps. Parce que j'ai écouté votre premier podcast, OK? D'ailleurs, il est disponible, là, celui sur Françoise Guilbeault, hein, je me trompe-tu de son nom, Françoise? Oui. J'ai adoré ça, OK? Il est disponible. Good. Dans le fond, à toutes les 15 du mois, on va avoir, il y a 4 épisodes. J'ai écouté la vidéo où ce que tu t'inquiétais pour le son. Je veux juste te rassurer sur quelque chose. Là, j'ai trouvé la production excellente, puis en aucun moment, j'aurais pu détecter un problème de son quelconque, là.
Ben, tant mieux, parce que on a trouvé un bon bénévole qui a fait un job. Moi, c'est parce que le son, après ma barre, là, il était vraiment pas bon. Hein.
Ah, ben, garde.
Fait que là, il a été retravaillé, puis c'est pour ça qu'on les diffuse, là, maintenant, parce qu'ils sont plus écoutables, sont mieux. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait. On est encore en train de travailler sur les 2 derniers épisodes, là, pour retravailler le son, là, mais on va y arriver, puis les 4 vont être livrés. Mais c'est juste qu'on avait peut-être déplacer des familles pour l'enregistrement, puis on a tout fait ça dans la même journée, puis la personne qui s'occupait de, t'sais, le régisseur ou la personne qui écoutait que tout se passait bien, ben, elle nous l'a pas dit que le son était pas fameux, là, ou, t'sais, de se rapprocher des micros, etc. Fait qu'il a fallu qu'un de nos bénévoles, là, Laurent, là, fasse des pirouettes là, pour nous amener ça beau, puis il a fait une belle job. En tout cas, moi, j'ai écouté le premier épisode, là, le deuxième s'en vient, fait que j'ai hâte de voir la suite. Mais s'ils sont tous comme le premier épisode, je vais être très satisfait.
Non, Laurent a fait une belle job, puis tes deux animatrices aussi, là, Sabrina puis Joanie, là, je vais te dire, je me suis pris des notes, là, je sais pas si tu veux tout savoir ce que j'ai pensé du podcast, là.
Je ne gênerai pas,
OK? D'abord, ben, le podcast s'intitule intemporel, parce que c'est évidemment quelque chose qui est suspendu dans le temps. Hein, c'est comme dans le cas de Françoise, elle est disparue en quelle année, Françoise?
73.
Veux-tu nous résumer la disparition de Françoise?
Bien sûr. Ben, en fait, Françoise est simplement partie en laissant un mot là, à son mari sur le dessus du frigidaire en disant en espérant que les enfants aient une meilleure famille. Donc, c'est comme si c'était un départ volontaire. Mais tu sais, encore là, est-ce que c'est un départ volontaire? Est-ce qu'on a toutes les informations de ce temps-là? Fait que ces enfants-là ont grandi, mais finalement, sans leur mère. Puis c'est le mystère total. Elle aurait été aperçue à Montréal quelques mois plus tard. Mais encore là, c'est quelqu'un qui la connaissait qui l'aurait aperçue, mais ce quelqu'un-là, il n'a pas parlé. Donc, ça peut être quelqu'un qui ressemblait étrangement beaucoup à Françoise. Là. Fait que, mais c'est ça. Elle est complètement disparue. Elle n'a jamais réutilisé de ses comptes bancaires ou quoi que ce soit là, dans ce temps-là, 73. Là. Fait que, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, elle est partie de la maison. Elle a appelé une gardienne. La gardienne est venue chercher à garder les enfants. Elle disait qu'elle s'en allait faire des commissions. Elle est allée en ville. Puis finalement, ben, jamais revenue.
Elle n'est jamais revenue. Fait que, mais je veux juste répéter là, ce que j'essayais de t'exprimer, c'est que j'ai réalisé à écouter les trois enfants en parler. Ils étaient très jeunes à ce moment-là, mais pareil, t'sais, ils ont tous vécu quelque chose par rapport à ça. Ça a teinté leur vie, là, comme la tienne. Je remarque qu'au fil du temps, probablement les trois enfants n'ont pas la même théorie, hein, puis au fil du temps, leur théorie a changé aussi.
Oui. Ben, c'est sûr, tu vieillis, tu te questionnes les scénarios, tu sais, ce que tu entends parler, comment est-ce que ton père pense, comment que les gens autour de toi réagissent, ce qu'ils disent en famille. T'sais, ça a fait la même chose en ce qui concerne ma mère. Moi, je veux dire, moi, la manière j'avais compris ça plus tard, là, quand j'avais 14-15 ans, ben, ma mère avait été battue avec un poteau de clôture, tu sais. Puis, mais c'était pas un poteau de clôture, finalement, c'était un manche de mort. Fait que, tu sais, ça change un peu comment je vais penser. Le poteau de clôture vient de où? J'avais-tu une clôture autour de chez nous? Tu sais, j'essayais de voir qu'est-ce qu'il en était, mais là, j'étais dans le champ complètement. J'avais même pas la bonne arme du crime. Fait que c'est la même chose pour la disparition, tu sais. Je veux dire, quand là, il y en a une des enfants, ben, qui a vu la note sur le frigo, puis qui l'a lu, puis etc., puis qui l'a montré, ben, la plus jeune, elle l'a pas su tout de suite. Elle était trop jeune pour ça. Fait qu'elle l'a appris quand elle avait 7-8 ans. Fait que c'est sûr que ça change tout, là. Leur perception change au fil du temps, finalement, puis c'est tout à fait normal, ça.
Il reste que, tu sais, moi, pour moi, c'est incompréhensible qu'après une histoire comme ça, là, qui fait 60 ans, 50 ans, hein, comment ça se fait qu'il y a des affaires qu'on ne s'est pas donné la peine? Je veux dire, on n'a jamais parlé à la gardienne, évidemment, la madame est décédée aujourd'hui. Le douteux décorateur aussi, là, tu sais, le billet d'autobus, l'achat de ça, tu sais, la note. Tu sais, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui ne deviennent pas accessibles, plein de bouts qui n'ont pas été investigués. C'est-tu toujours comme ça?
Ben, là, 73, 2025, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, 73, tu sais, on a toujours eu le droit de disparaître. Hein? Françoise est disparue, elle a juste comme quitté. Elle s'est pas fait enlever, il n'y a pas personne qui n'était pas dépressive, elle passait pas son temps à pleurer. Fait que, c'est, je veux dire, les gens avaient pas raison vraiment de s'inquiéter. Fait que quand ça a été rapporté, bon, à la police, je pense que l'urgence de la retrouver était pas là, là. Puis les enquêtes des années 70, là, ben, je m'excuse, mais je sais pas, tu sais, je pense que mes enquêteurs sont meilleurs que les enquêteurs des années 70, là. Fait que c'est juste de dire, non, mais je le pense sérieusement, parce que, tu sais, il n'y avait pas d'outils, les autres non plus. Ils étaient amanchés un peu comme on est amanché, nous autres. On n'a pas d'outils, nous autres non plus. On se fie sur les familles pour obtenir de l'information de la police. On a un petit peu de collaboration de la police dans certains cas, mais pas dans tous. Ça dépend toujours de l'enquêteur. S'il nous connaît pas, il veut rien savoir de nous autres. S'il nous connaît, il sait qu'on est utile, il va nous en donner un peu. Fait que ça change tout le temps à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'enquête, là, il aurait pu faire plus. Mais comment ça s'est produit, tu sais, qui est en charge, puis ça change toujours par rapport à ça. Il y a des bons enquêteurs, il y a des moins bons. C'est comme des corps de police. Il y en avait des bons, puis il y en avait des moins bons aussi dans ces années-là. Fait que, mais dans le cas de Françoise, ça n'a pas été comme fouillé là, à fond, là, je dirais. Donc,
non, puis c'est pas non plus, tu sais, je veux dire, ils ont pas, malgré le droit d'accès à l'information, encore aujourd'hui, la famille n'est pas capable d'avoir tous les documents, toutes les informations dans le dossier. Vu que le dossier reste ouvert, on dirait que la police, les enquêteurs, tout le monde continue de protéger les informations qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu illogique? Parce que peut-être qu'ils pourraient s'accrocher juste à un petit détail de quelque chose, tu sais. Je comprends pas. Tu sais, même JFK, là, on a libéré les documents. Comment ça qu'après tant d'années, on ne donne pas accès à la famille au contenu du dossier au complet?
Ah mon Dieu, ça fait longtemps que je le demande. Écoutez, j'ai rencontré la police de Longueuil en janvier 2025, là, cette année, là, okay, 44 ans après le meurtre de ma mère. Là. Puis j'ai juste demandé, quand ils m'ont montré des photos, puis il y a une photo du salon chez nous. Il n'y a pas de sang, rien. Le meurtre n'est pas produit là. C'est juste le salon. Une photo que je n'ai pas, moi. Puis j'ai dit, hey, je peux savoir cette photo-là? Non, ça appartient à la police. Tu sais, à quelque part, puis pour eux autres, le meurtre est résolu parce que, dans le fond, leur suspect, qui était l'ex-conjoint de ma mère, ben, il est décédé au mois de novembre 2024. Fait que pour eux autres, ils n'ont plus de suspect. Puis, mais là, on dit, là, tu sais, on est pas mal au bout de ça, on est pas mal certain que c'était lui, puis là, il est mort, rien à faire, OK. À cette heure que tout est fermé, là, selon, dans ma tête à moi, là, la police ne travaillera plus dessus, ben là, je leur demande la photo du salon, qui était vraiment... C'est pas comme si je demandais une photo
du lit-plaintaine.
Ben, c'est ça, je ne demande pas une photo de la scène de crime, je demande une photo d'une autre pièce à côté, parce que, ah, je remarquais des livres.
Tu avais 13 ans, puis c'est bon d'avoir des souvenirs pareils du moment joyeux d'avant, là?
Exactement, mais ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non que ça appartenait à la police. Fait que peu importe que ce soit réglé ou pas réglé, ça appartient à la police. C'est du bon vouloir. C'est peut-être la gestion qu'ils ne veulent pas faire, là, mais tu sais, ce serait la moindre des choses que si une famille demande un petit quelque chose, comme moi je demandais ça, bien qu'ils me le donnent. Là, tu sais. Ils ont perdu l'empreinte digitale, ils ont perdu le cheveu de l'assassin et tout, puis là, ils sont pas capables de me donner une photo là, pour compenser. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça un petit peu particulier, mettons. Ben, tu sais, je m'en fais pas, là, c'est juste une photo, c'est pas plus grave que ça. Mais si on revient à ce que tu disais tantôt, tu sais, après moi, je pense qu'après 25 ans, ils devraient dire, bon, okay, ça fait 25 ans que l'enquête est ouverte, mais ça fait 10 ans que ça bouge plus, ben, on pourrait peut-être utiliser la famille pour lui donner un petit peu de nanane, pour lui dire ce qu'on a dans le dossier, puis ils vont peut-être allumer sur quelque chose, tu sais, puis c'est ça qu'ils font pas. Puis là, le dossier, ben, il va mourir de sa belle mort, là, tranquillement, pas vite. À moins que meurtre et disparition est résolu du Québec, à un moment donné, ben, il embarque du dossier puis qu'il trouve d'autres choses. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rentrer dans le dossier puis brasser un peu les affaires puis, tu sais, pour essayer de juste sortir un verre de la canne, tu sais, parce que moi, j'appelle ça brasser la canne de verre, là, quand ça se met à grouiller. C'est le fun, là, parce qu'à un moment donné, t'as de l'information nouvelle. C'est le fun d'avoir de l'information nouvelle quand on prend le cas de Patricia Ferguson qu'on a élucidé, que Marie Saint-Germain a élucidé, une de nos enquêtrices, elle a juste brassé une couple d'affaires, elle a rencontré des voisines, elle a fait des liens, puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un individu qui a passé au travail des maîtres du filet de la police. Puis finalement, ben, on l'a présenté sous forme de rapport à la police, puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, le monsieur est accusé pour meurtre, puis il est en attente de procès. Là. Fait que tu sais, ça date de 96. Fait que si on parle de 30 ans, là, ça va faire 30 ans l'année prochaine que ce gars-là a tué. Puis nous autres, on est juste intervenus comme organisme de bienfaisance, puis finalement, on donne l'information à la police, ça débloque. Donc, on sait que ça peut fonctionner. On l'a fait deux fois, on l'a fait avec Diane Malouin, puis on l'a fait avec Patricia Ferguson, puis là, on avance dans le cas de Valérie Dalpé, on pousse les affaires. Puis le fait d'amener de l'information à la police, ben veut pas, ben ça réactive un peu. Ils sont obligés de réouvrir le dossier, checker ce qu'on a amené. Puis là, ben, ils font des liens, eux autres, avec, puis ça peut débloquer. Puis c'est exactement ça qui s'est passé avec Patricia Ferguson. Même que Maryse a reçu une mention citoyenne du SPVM là, pour avoir élucidé un meurtre. Fait que tu sais, c'est pas rien, là. C'est quand même très bon. Fait que la raison d'être de l'organisme, là, elle a déjà sa raison d'exister. Là.
Non, mais il y en a tellement de raisons, Stéphane, que c'est bon que vous existiez. Juste de voir à quel point les gens sont touchés que vous vous intéressiez à eux puis à leur histoire. T'sais, parce qu'à un moment donné, ils se sentent abandonnés, là, justement, quand le dossier reste ouvert, mais qu'il n'y a plus vraiment personne qui le fait avancer. Quand on ne veut pas répondre à tes questions, que tu es prisonnier, finalement, de ce que tu t'es imaginé, que tu dis « je ne veux pas mourir sans savoir », d'avoir que du monde comme vous autres, qui juste d'avoir l'intérêt là, d'écouter les histoires, juste des écouter.
Exactement. Mais ça fait du bien. Ça fait juste. J'ai surpris la mère de Nadia là, quand j'étais arrivé. J'étais arrivé jeudi soir à Chandler, puis vendredi matin, j'étais cogné à sa porte. Puis, ah, mon Dieu, les yeux, là, c'est venu à moi. C'est Stéphane Luss qui est là. Ses meurtres et disparitions est résolu du Québec. Il est revenu ici pour ma fille. Fait que juste ça, là, ça a dû comme. Avait un gros poids sur ses épaules. Puis je sais ça, j'essaie de dire, laissez-nous ça à nous. Là. Vous faites votre deuil, là. Puis nous autres, ben laissez-nous chercher là, en attendant. Puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça, parce que dans un petit village comme ça, c'est pas évident. Là. Il y a bien des cancans là, qui se promènent, là, puis tout ça. Puis j'ai dû arrêter de penser trop, de s'arrêter à ces cancans-là.
Des cancans, ça devient des ragots, puis trop souvent, ça devient des secrets de famille, en plus.
Voilà. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'on, je pense que c'est pour, on est vraiment comme apprécié des familles, puis c'est ça, c'est mission accomplie. T'sais, des fois, on se bute à des, bon, on trouve pas la personne qui est disparue, on trouve pas d'informations, mais on essaye de la trouver. Là. Donc, c'est tout un autre honneur, puis éventuellement, ben, ça va être payant. On va le retrouver. On va retrouver quelqu'un, puis faut juste pas lâcher. S'envoyer les effectifs aux bons endroits, puis écouter un peu notre cœur, puis comment les gens. Puis c'est tout est basé sur de l'écoute. Là.
Effectivement. J'en reviens à l'épisode de Françoise Guilbeault, parce que j'aimerais ça que les gens aillent l'écouter. Au début, tu sais, c'est d'une durée d'un heure 33, tu sais, d'un show de chaise assis. Je me suis dit, mon Dieu, comment ils vont faire ça? J'ai tellement trouvé que l'ordre des questions, puis l'organisation, comment les témoignages sont amenés, tu sais, tout ça, là, c'est pertinent. Puis j'ai adoré revisiter les années 70. Puis je voulais te poser une question, parce que c'est une époque qu'il n'y a pas d'archives. Puis tu sais, on dirait que tu dis mes enquêteurs étaient meilleurs à cette heure que ceux qui avaient eux autres dans le temps, OK? C'est-tu vrai que dans les années 70, c'est le fils qui le souligne, le fils de Mme Guilbeault, là. Il dit, il y avait beaucoup de femmes qui ont disparu. Ça se peut-tu que l'époque des années 70, c'était une époque quand même que ça allait bien pour les tueurs en série, puis qu'il y en a peut-être qui nous ont passé en tour du nez?
Définitivement, oui, absolument, parce que là, je veux dire, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'ADN dans ce temps-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, la seule façon qu'on pouvait reconnaître un tueur, c'est si la victime survivait, parce qu'elle disait, ben, c'est un grand gaillard blond avec une grosse barbe noire, whatever, tu sais, fait que c'est la seule façon qu'il pouvait, fait que dans ce temps-là, il se faisait tuer. Puis, tu sais, il n'y avait pas d'histoire de, on va regarder, ouais, s'il y a un véhicule suspect qui a passé à telle heure dans la nuit, telle journée. Tu sais, aujourd'hui, on peut, t'es pas obligé d'être à la scène de crime pour repérer quelqu'un qui était dans les parages, tu sais. Fait que, je pense que, oui, dans les années 70, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été assassinées. Tu sais, c'est fort probablement, mais la plupart, il y en a beaucoup qui étaient des agressions sexuelles avant, des viols. Il y a même chose pour les enfants. Hein. Il y a moins d'enfants aujourd'hui, heureusement, qui se font enlever. Fait que c'est pas fort probablement à cause de la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, la personne y pense une, deux, trois, puis quatre fois avant de faire un crime. Puis
l'ADN, ça pardonne pas, là.
Ben c'est ça, fait que ça doit finir en fantasme dans leur tête tout simplement, puis ils se commettront pas parce qu'ils savent qu'est-ce qui les attend si jamais ils se font prendre. Puis les chances de se faire prendre aujourd'hui sont beaucoup plus grandes qu'en 70 effectivement.
Fort heureusement, là tu sais, on parle des crasseux, ok, mais dans l'histoire à Françoise, il y avait une théorie qu'elle avait voulu juste montrer à quel point personne fait son bout pour l'information. Puis c'est le fun de retourner dans les années 70 pour d'autres raisons là. Elle, Françoise, elle avait rêvé d'être sœur cloîtrée. On n'entend plus jamais parler de ça aujourd'hui. Les enfants ont quand même eu le génie d'interviewer l'archevêque qui n'a pas été assez fin pour répondre. Voyons.
Ça, c'est les églises. Ça, c'est dans le fond, quelqu'un qui rentre chez les sœurs cloîtrées. Si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas religieux et sincère. Je peux pas vous... Mais je pense que c'était quelque chose aussi qui était anonyme. Où, tu pouvais rentrer là et... faire ta vie, là, puis t'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit, parce que j'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire-là. Bon, à cette heure, est-ce que c'est vraiment comme ça, là, les ceux qui rentrent ici, c'est personnel? Il aurait pu au moins répondre, écoutez, C'est de l'information personnelle, je ne peux pas vous répondre pour ça plutôt que de laisser ça sous silence. Ouais, je pense que ça aurait dû, effectivement, il aurait mérité d'avoir une réponse. Ça. Puis à la limite, les policiers auraient dû y aller là, puis d'obtenir la réponse de force, là, en partant. Fait que ça, c'est toutes des choses que probablement les enquêteurs avaient là, comme information au début. Là, c'est sûr, il y a peut-être des faits ce bout-là, là, puis la famille ne sait pas. Là, c'est une autre affaire. Il y a bien des choses que les enquêteurs vont faire, même des années 70, qu'on pense qu'ils n'ont pas faites parce qu'on n'a pas entendu parler, mais qu'ils ont faites. Fait que ça serait le fun, par exemple, que cette famille-là, la famille des enfants de Françoise, rencontre la SQ puisqu'ils se fassent répondre à leurs questions. Parce que, comme vous l'avez constaté, il y a encore plein de questionnements.
Il y a plein de questionnements. Puis il y a plein de conséquences. OK?
Voilà.
J'ai pris des notes là-dessus sur les conséquences pour les trois enfants de Françoise Guilbeault qui sûrement vont rejoindre des conséquences sur ta vie, quoique tu as réussi à le capitaliser puis à virer ça de bord. Puis aujourd'hui, tu es utile pour les gens qui le vivent aussi. Eux autres, les conséquences sont diverses. Okay? Ils ont encore de la peine, premièrement, okay? Même si c'est en 73. Ils n'ont pas d'endroit pour se recueillir. Tu sais, on sait pas c'est où. Okay? Ils sont devenus du bon monde, pareil, mais il reste un traumatisme de l'abandon, même s'il est involontaire, il y a un sentiment d'abandon là-dedans. Puis c'est beau de les voir, tu sais, l'aînée, elle serait ouverte à avoir des demi-frères, des demi-sœurs, à ce qu'elle ait refait de sa vie. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, elle serait jamais allée à l'hôpital ou elle vivrait dans un autre pays, elle serait allée pas de passeport. Fait que tu sais, on arrive tout le temps d'un cul-de-sac, tu sais, si on n'a pas toutes les informations qui étaient dans le foutu dossier, hein.
Exactement, mais ça se peut, là, l'histoire de s'en aller aux États, dans un autre pays. Je veux dire, c'était facile de rentrer aux États-Unis avant 2003, 2005.
T'as
raison. Puis tu rentrais là avec ton permis de conduire. Puis probablement qu'en 73, là, je ne sais même pas si tu avais besoin de ton permis de conduire pour aller aux États-Unis. Fait que, puis une fois l'autre bord, ben, il n'y a rien qui t'empêche de rouler jusqu'à Burlington puis prendre l'avion là, pour t'en aller. Dans un autre pays, là, je ne sais pas, le Mexique, je pense que c'était la même histoire. Je pense qu'on pouvait passer des États-Unis au Mexique sans passeport il y a quelques années. Là, je parle vraiment à travers mon chapeau. Là, mais les États-Unis, c'est sûr qu'il y a bien des Québécois qui auraient facilement traversé et s'en aller en Floride, puis rester là, puis se marier, puis changer de nom, puis whatever, tu sais, sans jamais donner de nouvelles, surtout si c'est des femmes, là, parce que la femme change de nom aux États-Unis encore aujourd'hui. Mm. Fait que c'est difficile à trouver, je sais pas, on va dire Mélissa Blick est partie aux États-Unis, que, mettons qu'on est en 2001, là, puis qu'il n'y a pas d'histoire de passeport, donc on ne sait pas si elle est passée vers les États, puis parce qu'elle s'est amourachée d'un gars dans le Vermont, on va dire, ben on n'entendra plus parler, c'est sûr, hein, changer de nom, elle s'est appelée elle s'appelle maintenant Mélissa Smith. Fait que c'est sûr que c'est, on la retrouvera pas, tu sais, parce que cette personne-là aurait vraiment voulu disparaître. Mais il y en a combien de ces cas-là? Je peux même pas les quantifier. Les gens, on les retrouve pas. Fait qu'on peut pas dire que c'est ça avec certitude.
Le podcast Intemporel, premier épisode sur la disparition de Françoise Guilbeault, est disponible sur YouTube, Spotify, le Facebook, le vôtre, aussi sur Instagram, votre site Internet, TikTok, on a accès à vous autres aussi. Je suis impatiente d'écouter l'épisode 2 là, qui va arriver le 15 de juin. Je ne sais pas si c'est sur qui, par exemple. Richard Bellin, assassiné à Montréal le 19 juin 1999.
Exact. On va de la même formule, on rencontre la famille. Dans ce cas-là, c'est sa sœur, donc puis elle va expliquer là comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle s'est sentie, puis c'est le côté qu'on veut montrer aux gens. C'est quoi qu'ils vivent, qu'est-ce que vit la famille là, peut-être qui vit un meurtre ou une disparition là. On a commencé par une disparition, là c'est un meurtre résolu. Tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis comment est-ce qu'on vit au jour le jour avec ça.
Comment qu'on traverse le temps quand on a vécu de quoi de même.
Exactement.
Stéphane Luce, OK, rappelez que vous êtes un organisme de bienfaisance. Les dons sont plus que bienvenus. Ça vous permet de traiter plus de causes encore. Tu l'as bien dit, on cherche des compagnies de transport pour afficher les visages puis les coordonnées, qui appeler si jamais on a des informations par rapport à des disparitions. Si dans la discussion qu'on a eue, il y a des choses qui vous ont fait allumer, 819-200-4628, c'est ça, hein?
Exactement, oui.
Et rappelez que vous cherchez en tout temps des bénévoles, okay, pour se joindre à votre équipe. Puis, tu sais, on peut avoir été formé par le BSP, être recherchiste, rédactrice, on peut faire de la correction, être vidéaste, photographe, on cherche des pilotes de drones, l'informatique, garde. Vous cherchez tout le monde qui est prêt à vous aider, je pense que vous les prenez. On est-tu d'accord?
On est prêt, mais là, je veux juste rajouter qu'on ne peut pas nécessairement abuser de leur service immédiatement. Ça va être selon la région, selon les finances, selon bien des raisons. Par contre, savoir qu'il y a des dronistes dans toutes les régions, ben moi, ça me permet de dire « Hey, ça tente-tu de droner tel endroit parce qu'on a une disparition récente? » Fait que c'est dans ce but-là. Donc, les gens, oui, peuvent devenir bénévoles, mais c'est sûr qu'il y en a qui tapent du pied pour nous aider, mais malheureusement, là, je peux pas. Tu sais, si on n'a rien à faire à Gatineau pour le moment, ben, je n'appellerai pas le bénévole de Gatineau, mais si on fait quoi à Montréal, mais tous les bénévoles de Montréal, je vais les appeler. Mais en gros, là, je veux juste dire, oui, on prend tout ce que vous avez à nous offrir, on le compile dans notre base de données, puis quand on en a besoin, ben, on va piger dedans pour communiquer avec vous.
Parce qu'on recherche à la grandeur du Québec Stéphane Luce, meurtre et disparition est résolue du Québec. Merci infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Ben, merci à toi, Marie, puis j'attends ta prochaine invitation. Ça va me faire plaisir de
Pareillement, bonne continuation.
Merci.